Vous êtes sur RTL.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
8h18, bonjour Richard Ferrand.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes bien entendu président de l'Assemblée nationale. Vous êtes surtout aussi un proche du président de la République. Le cap présidentiel a-t-il clairement changé depuis hier, Richard Ferrand ?
Non, ce qui s'est passé, c'est une accélération, puisque ce que le président de la République a annoncé hier de concret et tracé comme perspective était rigoureusement contenu dans son programme quand il s'est présenté devant les Françaises et les Français pour un quinquennat. Et ce que le président de la République a décidé, c'est d'accélérer. Donc, ni virage, ni changement, accélération. C'est ça qu'il faut retenir.
Richard Ferrand, est-on obligé de faire de la langue de bois pareil, alors qu'on vient d'avoir une inflexion sociale objective que le président reconnaît lui-même. Fidèles grognards ne sont pas obligés de porter, je dirais, à ce point-là, la voix du président. Il s'est passé quelque chose hier.
Je ne porte pas la voix, j'ai fait partie de ceux qui ont travaillé à notre programme, donc je sais de quoi je parle. Et quand je vous dis qu'il fallait augmenter la prime d'activité, le pouvoir d'achat, etc., c'est quelque chose qui devait se faire sur plusieurs années. C'est ainsi que ça avait été présenté. Et hier, pour faire face effectivement à la crise qui est survenue, le président a choisi d'accélérer.
Sauf que d'éminents ministres, pardonnez-moi,
c'est juste bien nommer les choses.
Sauf que d'éminents ministres, parmi lesquels M. Le Maire sur la CSG ou Mme Pénicaud sur la SMIC, nous disaient le contraire quelques heures, voire quelques minutes auparavant.
Oui, en tout cas, c'est pas moi qui vous le disais. Et ce qui est aujourd'hui qui ressort de ce qui a été dit,
disent n'importe quoi.
Vous permettez ? Non, ce n'est pas, comme l'a rappelé Laurent Berger il y a quelques instants sur votre antenne, ce n'est pas en tant que tel le SMIC qui augmente, ce n'est pas le salaire horaire qui augmente. Il faut être précis. Ce qui augmente, c'est à la fois la prime d'activité, ce qui permet de donner plus de pouvoir d'achat. Donc, vous pouvez y voir une contradiction si vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est que chaque travailleur qui est payé au SMIC aura 100 euros de plus.
Ce n'est donc pas un désaveu pour les deux ministres concernés que je viens de citer ? Je pense que pour eux, c'est difficile à vivre.
Je pense aussi. Je pense aussi.
Mais merci de le reconnaître.
Non mais attendez, mais ce n'est pas à proprement parler un désaveu dans le sens que ce n'est pas le SMIC horaire qui augmente, etc. Enfin, peu importe. Ce qui importe, c'est ce qui est concret. Ce qui est concret, c'est que chaque travailleur rémunéré au SMIC gagnera 100 euros de plus. Voilà ce qui est concret.
Vous étiez hier avec Emmanuel Macron à l'Élysée lors de la réunion réunissant les corps dits intermédiaires. Tous attendaient une réponse forte du président. Pensez-vous qu'ils ont été entendus à la lumière de ce qui a été annoncé hier ? Ou croyez-vous qu'il faille encore aller plus loin ?
Si je vous dis oui, vous allez encore dire que c'est de la langue de bois, j'imagine. Non, je crois qu'il y a des réponses concrètes qui répondent à des préoccupations qu'ont exprimées les travailleurs qui s'estimaient injustement rémunérés, les retraités qui estimaient que leur retraite allait baisser, le fait que l'on réintroduise les heures supplémentaires ou les primes que les entreprises verseront quand elles le peuvent, quand elles en ont la capacité, tout ça sans impôt ni charge, ça répond à cette urgence. Mais évidemment, les choses ne peuvent pas s'arrêter là. Puisque, comme ça a été dit tout à l'heure, y compris sur votre antenne, il y a beaucoup de sujets encore à aborder. Il y a des sujets sur la mobilité. Il y a des sujets sur, justement, comment négocier le coût des déplacements pour les gens qui font 40 km par jour pour aller travailler. Et ça, il doit y avoir des négociations qui s'ouvrent autour de cette notion de prime de mobilité. Le président de la République a aussi signalé des choses importantes qui sont des choses de justice fiscale. Quand il dit qu'il faut que les dirigeants des grandes entreprises françaises payent leurs impôts en France, quand il dit que les entreprises qui font des profits en France doivent payer leurs impôts, comprenez bien que cela signifie que notamment, on peut penser aux GAFA mais à d'autres aussi, et le Parlement va s'en saisir, il va falloir rétablir là-dessus des éléments de justice fiscale. Donc vous voyez, c'est un ensemble cohérent.
Le problème n'est pas qu'ils le disent, mais qu'ils le fassent et qu'ils aient les moyens d'agir là-dessus. Pensez avoir les moyens d'agir là-dessus ?
Eh bien, nous avons les moyens d'agir, pour ce qui concerne les parlementaires, par la loi. Mais il va de soi, et c'est une demande forte. On ne voit pas pourquoi un artisan, et nous l'avons souvent dit, qui fait un peu de résultats, doit payer l'impôt sur les sociétés, et pourquoi de grandes entreprises bidouillent, si je puis dire, des montages fiscaux pour s'installer à Amsterdam ou ailleurs, et ainsi échappent à l'impôt. Ça, notre peuple ne le supporte pas, et ne le supporte plus, et nos députés non plus. Donc, il est temps de s'y mettre, et nous allons nous y mettre.
Je reviendrai sur la situation du gouvernement. D'Edouard Philippe dans quelques instants, mais revenons sur l'ensemble des annonces et leur coût réel. Parmi les premières critiques après les annonces présidentielles, c'est la question de leur financement qui peut paraître flou. Il y a forcément un manque à gagner dans les caisses de l'État, donc qui va payer ? François Langlais nous disait tout à l'heure qu'il évaluait aux alentours de 12 milliards les annonces qui avaient été faites.
L'enjeu, c'est de retrouver le très fameux « en même temps », si je puis dire. C'est-à-dire ne pas porter atteinte au soutien à l'investissement et par conséquent aux entreprises. Car sans investissement...
Qui va payer, Richard?
Permettez. Donc, pas d'emploi. Donc ça, c'est un aspect des choses. Sur cette accélération aujourd'hui, eh bien, il va nous falloir sans doute creuser le déficit pour pouvoir honorer ses engagements dans le terme qui a été fixé. Mais le plus important...
Vous vous rendez compte de notre image à quelques mois des élections européennes? Je ne vous dis pas qu'il n'était pas nécessaire. On ne peut pas vous dire tout et son contraire, j'en suis parfaitement conscient.
Je vous en remercie. Oui.
La France, qui donnait des leçons encore à M. Salvini il y a quelques jours, va se trouver dans une situation avec un déficit qui peut monter à 3,2 ou 3,4%.
Non, la France ne donne de leçons à personne. On dit simplement que, vous savez, l'intérêt de l'Europe, c'est quoi? C'est une France stable. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où notre économie recule. Bruno Le Maire parlait de déjà 0,1% de croissance perdue. Nous ne pouvons pas donc continuer comme cela. Il faut par conséquent qu'il y ait un sursaut collectif. Et dès l'instant qu'il y a des mesures de court terme, dès l'instant qu'il y a des perspectives d'un grand débat citoyen dans lequel le président de la République et tous les corps intermédiaires vont se mobiliser pour repenser, y compris notre modèle, puisque nous sommes les recordman d'Europe de la dépense publique et du service public et les recordman d'Europe des impôts et des taxes.
Oui.
Mais dans le même temps, on nous dit baisser tous les impôts et toutes les taxes, mais augmenter les services publics. Il faut tout remettre tout ça sur la table. Et avec nos compatriotes, se dire au fond, quelle France veut-on? Parce qu'on ne peut pas avoir comme ça des désirs à ce point contradictoires. Parce qu'avoir plus de services publics et moins d'impôts, moi je ne sais pas faire et personne ne sait faire.
Donc, on accepte, à la faveur d'une crise sociale, une augmentation massive de nos déficits publics.
Pas massive et strictement temporaire, puisque comme vous le savez, dès l'année prochaine, la conversion du CICE en baisse de charges patronales, c'est pour une année. L'année d'après, il n'y aura pas cet effet d'accumulation des deux mesures et on retrouvera un rythme en dessous des 3%.
Qu'avez-vous compris de cette crise sociale sans précédent que nous venons de vivre pendant 4 semaines, Richard Ferrand? Vous avez été élu local, vous connaissez très bien...
Je le suis toujours.
La vie du pays. J'aimerais savoir ce que vous en comprenez, ce que vous en tirez.
Je crois qu'il y a, c'était un mélange de plusieurs choses. D'abord, l'idée qu'il y aurait une France des gagnants et une France des perdants. Et que c'est celles et ceux qui tirent le moins bon, finalement, de notre pays, se trouvaient finalement insatisfaits à juste raison. Il y a aussi une chose simple. On peut admettre que quand on n'a pas de travail, la vie soit dure. Mais là où ça devient insupportable, c'est lorsqu'on travaille et qu'on n'a pas assez de revenus pour vivre convenablement. Et vous savez, c'était d'ailleurs, je veux juste vous redire la cohérence de cela, c'était pas de la langue de bois. Lorsqu'Emmanuel Macron s'est présenté devant les Françaises et les Français, il a dit il faut qu'en France le travail paye plus. Il faut que ceux qui travaillent puissent vivre sinon aisément, en tout cas dignement. Et donc c'est pourquoi on avait prévu toute une série de mesures dans le temps et que là on accélère les choses. Parce que il nous faut répondre à cela.
Pourquoi ensuite, le président de la République, notamment dans son expression vis-à-vis des Français, a-t-il à ce point semblé manquer de compréhension et d'empathie? C'est intéressant ce que nous disait tout à l'heure le secrétaire général de la CFDT. Nous a dit hier soir, il y avait enfin des signes d'empathie et des mesures pour les salariés. Elles sont venues tardivement et vous vous êtes bien rendu compte à quel point la colère des Gilets jaunes avait pour objectif essentiel de contester l'homme président de la République, celui qui a été élu chef de l'État il y a un an et demi.
Vous savez, moi j'ai entendu des expressions en effet de détestation, de haine même,
oui,
du président de la République.
Oui.
Je l'ai entendu. D'abord, je veux vous dire, j'en ai profondément souffert, parce que moi qui le connais bien, je sais que c'est un homme incapable de mépris, de dédain de tout ce qu'on lui impute ici ou là. Profondément incapable. D'ailleurs, si tel n'était pas le cas, je ne serais pas avec lui. Vous savez, moi je suis un enfant du peuple, et je n'aurais jamais admis d'être aux côtés d'un dirigeant qui serait capable de cela. Simplement, oui, il y a eu des expressions, et il l'a dit lui-même, qui ont pu blesser. Mais... bon, ça a été ensuite amplifié, comme le veut notre époque, par les réseaux sociaux, par toute une série de choses. En tout cas, il a tenu à dire que à aucun moment, ça faisait partie de lui-même. C'est un homme qui est engagé pour notre pays, pour les Français, pour la France. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose aussi. J'ai bien entendu, au-delà de la souffrance qui a été exprimée, il y a aussi des militants politiques qui essayent de récupérer ce qui se passe.
À n'en pas douter, oui.
Monsieur Cauchy, qui était tout à l'heure sur votre antenne, fait le gentil gilet jaune, militant et sincère. C'est tout de même un homme politique engagé à l'extrême droite depuis des années et des années. Lorsque j'entends certains leaders de la France insoumise, qui naguère Blatter disait 5 euros de moins sur les APL, c'est insupportable, mais 100 euros de plus sur le SMIC, c'est insignifiant. Il faut arrêter d'être de mauvaise foi. Il faut que notre pays se rassemble, il faut que notre économie reparte. Il va falloir que l'on prenne les dispositions de justice fiscale dont je vous parlais. Il faut que l'on redémarre.
Où sont vos
relais ? Notre pays en a besoin.
Où sont vos relais sur le terrain aujourd'hui, Richard Ferrand ?
Mais non.
Qui peut vous aider à reprendre ce dialogue qui a été interrompu, interrompu violemment ?
Écoutez, l'ensemble des partenaires qui étaient hier autour de la table à l'Élysée, c'est-à-dire l'ensemble des organisations syndicales avec lesquelles il faut organiser ce débat.
Après les avoir ignorés pendant 18 mois et en expliquant que les corps intermédiaires, en gros, ne servaient plus à rien.
Non, je n'ai jamais expliqué cela, je n'ai pas entendu non plus le président de la République l'expliquer. Je suis désolé, mais retrouvez-moi les explications qui vont en ce sens. Les grandes associations d'élus, les collectivités locales, lorsque le président de la République dit hier... Notre pays est trop centralisé. C'est extrêmement important. Pourquoi voulez-vous que l'on fasse une réforme de la Constitution pour justement reconnaître la différenciation des territoires ? Parce qu'en Bretagne, d'où je viens, eh bien, il y a des politiques régionales qui doivent s'adapter aux réalités du terrain, là où d'autres en Provence, Alpes-Côte d'Azur sont différentes, ou dans les Hauts-de-France. Donc redonner cette respiration au territoire, redonner des libertés locales, redonner des capacités d'initiative, booster les négociations dans les branches professionnelles, eh bien c'est tout cela qu'il faut remettre en mouvement.
Comment vont s'organiser ces débats sans précédent qui ont été annoncés avec les Français, comment peuvent-ils se passer et comment en sortir quelque chose de concret? Parce qu'il y avait deux choses frappantes dans ces manifestations des Gilets jaunes, par ailleurs totalement éparses, et où il est si difficile en effet de trouver des Gilets jaunes représentatifs avec qui nouer un dialogue. Mais bon, un, la détestation du président de la République, deux, des réponses concrètes. Donc on va attendre de ces débats qui vont avoir lieu des réponses concrètes. Comment les organise-t-on et comment fait-on remonter réellement la substantifique moelle finalement de ce travail s'il est mené à son terme ?
Vous savez, il y a là aussi un paradoxe. D'un côté on dit en France c'est trop vertical. Et dans le même temps, on voudrait que ce soit de la bouche du président de la République que sortent toutes les solutions. Aujourd'hui, il nous faut remobiliser toutes les forces, toutes les énergies françaises qui ont envie que l'on réponde aux défis qui se posent à nous.
Le gouvernement d'Édouard Philippe est encore légitime pour le faire. Le gouvernement d'Édouard Philippe.
Évidemment, le gouvernement d'Édouard Philippe a reçu massivement la confiance du Parlement. Ça, ce n'est pas un sujet. Mais ce que je veux dire,
est-ce qu'elle a la confiance du président de la République au moment où nous parlons ? On a eu des doutes là-dessus et vous le savez très bien.
Évidemment. Mais l'essentiel et le fond, c'est que ces débats dont on parle répondent aux enjeux de mobilité, répondent aux enjeux de réindustrialisation des territoires. Bref, que l'on prenne tout ce qui a été soulevé par les Gilets jaunes sous certaines formes, que tout ça soit capté, discuté et mis en œuvre au plus près du terrain. C'est ça la perspective. Donc hier, il y a eu des mesures de court terme. Et maintenant, il nous faut rebâtir un modèle français. C'est cela le défi qui est devant nous.
Merci beaucoup Richard Ferrand d'être venu prendre la parole ce matin sur RTL. Bonne journée à vous. On a bien compris que vous avez du travail sur les bras dans les jours et dans les semaines à venir.
Et dans les années qui viennent aussi.
Bonne journée à vous.
Bonne journée.
En un clic, réécoutez vos programmes préférés 24h sur 24.
Rendez-vous sur rtl.fr.